pense que d'abord, il y a un sentiment diffus qu'aujourd'hui, les États-Unis ne vont pas intervenir militairement, en tout cas pas seuls, et que donc ces pays, les populations de ces pays ont moins peur de se soulever, de changer l'ordre établi. On sent que l'emprise américaine est moins forte sur ces régimes. Ça, c'est une chose. Ensuite, le régime des pétrodollars qui était là depuis les années 70, eh bien, il est moins intéressant pour l'Arabie Saoudite aujourd'hui. C'est tout un régime où il y a un pacte en fait pour que l'Arabie Saoudite convainque toujours les membres de l'OPEP de vendre le pétrole uniquement en dollars. Ben aujourd'hui, le principal client de l'Arabie Saoudite pour son pétrole, ce n'est plus les États-Unis, c'est la Chine. Et donc, on assiste à un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et la Chine qui fait que, à terme, il n'y a pas de lien privilégié pour vendre du pétrole aux Américains et recycler ses recettes en bons du Trésor américain. Ça, c'était un régime qui était là quand les États-Unis étaient le principal consommateur et clairement la plus grande superpuissance militaire. Tout ça est moins vrai aujourd'hui. Et donc, on peut voir l'Arabie Saoudite revoir un peu ses intérêts et ses alliances. Et même si c'est quelque chose qui avait été très très solide parce que les Américains apportaient la protection militaire aux Saoudiens, eh ben aujourd'hui, on sait que c'est un État en faillite qui va devoir réduire son budget militaire, les États-Unis. Et donc, comme protecteur, on peut trouver mieux et on peut changer de partenaire commercial aussi. Vous voyez par exemple que les relations entre la Russie et la Chine se rapprochent vite aussi. Ils échangent ensemble en roubles et en yuan uniquement et non plus en dollars. Hong Kong voit aussi son intérêt avec la Chine. Maintenant, elle accepte le yuan comme monnaie tout aussi importante que le dollar sur l'île elle-même, si vous voulez, parce qu'avant c'était vraiment le dollar. Le Hong Kong dollar était ancré sur le dollar et il n'y avait que ça. Maintenant, vous avez le yuan qui est d'importance égale au dollar à Hong Kong. Donc, elle est en train d'entrer dans l'orbite chinoise. Vous avez le Japon qui était encore un allié privilégié des États-Unis qui a de grandes difficultés et qui voit lui aussi que ses exportations vers la Chine sont plus intéressantes que celles vers le consommateur américain complètement ruiné. Et enfin, vous avez l'autre allié de toujours des États-Unis, c'est la Grande-Bretagne, qui aujourd'hui, d'après quelques fuites de Wikileaks et quelques signes avant-coureurs, voit que son intérêt est plus avec l'Europe continentale. Donc l'Europe et la Chine agissent comme deux forces de gravitation qui attirent dans leur orbite les anciens alliés des États-Unis, le Japon et l'Angleterre.
La vieille Europe n'est pas morte.
Au contraire, elle ressuscite. Elle s'est dotée de mécanismes là de sauvetage pour les pays membres en cas de crise de leur dette souveraine. Elle est devenue une forteresse réglementaire qui s'impose à la City de Londres au niveau des hedge funds et bien d'autres domaines financiers. Pour la première fois, Londres est obligée d'accepter les réglementations venues du continent. Et avec l'effondrement de la livre sterling et la situation budgétaire catastrophique de la Grande-Bretagne, il n'est pas du tout à exclure que bientôt, avec le prochain changement de génération, l'idée d'entrer dans l'euro et de lâcher la livre sterling ne devienne extrêmement attrayante en fait. C'est vraiment la fin d'une époque.